VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 14h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Conflit au Burundi, le gouvernement burundais et l'opposition ont renoué le contact aujourd'hui en Ouganda sous l'égide du président Yoweri Museveni. Un dialogue bloqué depuis plus de 5 mois et pour essayer de dénouer la grave crise dans le pays. Les représentants du gouvernement, de l'opposition et de la société civile burundaise se sont retrouvés au palais présidentiel d'Entebbe, près de la capitale Kampala, pour une cérémonie d'ouverture des pourparlers présidée par le chef de l'État ougandais. Les négociations s'annoncent difficiles, c'est en tout cas l'avis de Deo Akizimana, ancien candidat à la présidentielle burundaise de 2010, aujourd'hui directeur du Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue, le CIRID.
Voyez le sentiment qu'il y a une urgence qu'on n'a pas encore comprise et qu'on ne veut d'ailleurs pas considérer à juste titre, c'est qu'il faut qu'on commence d'abord par identifier les acteurs de la crise, y compris les acteurs qu'on ne connaît pas publiquement, qui ne signent jamais aucun document, alors qu'on doit les considérer comme de vrais protagonistes. Ce travail qui est un travail qui demande beaucoup de patience, qui demande une bonne connaissance de la situation, n'a pas encore été fait. Et tant qu'il n'est pas fait, le dialogue burundais tel que je le connais ne va jamais marcher.
Deo Akizimana, directeur du Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue, le CIRID. Il était joint à Genève. En RCA, fin de la campagne pour la présidentielle et les législatives du 30 décembre. Pour faire le point, retrouvons à Bangui notre envoyé spécial, Tatiana Mosso.
C'est une fin de campagne sereine, du moins en apparence. Dans les grands QG de campagne, comme dans les plus petits, deux préoccupations majeures subsistent. La première étant de savoir si cette nouvelle date du scrutin, prévue mercredi, ne sera pas à nouveau repoussée. Plusieurs candidats, tête d'affiche ou non, ont exprimé le souhait d'un report plus important, repoussant le vote au dimanche 3 janvier. Certains avançant l'argument de laisser plus de temps à l'ANE, l'Autorité nationale des élections, pour mieux préparer techniquement le vote. Tandis que d'autres s'inquiètent de voir une grande partie des centrafricains de la diaspora ne pas pouvoir voter un jour ouvrable. Autre préoccupation qui prend de l'ampleur ces jours-ci à Bangui, la vente de certaines cartes d'électeurs pour à peine 1000 francs CFA. Il y en aurait plusieurs milliers selon Elvis Bindala, candidat indépendant aux législatives qui en a informé l'équipe de campagne d'Anissé et Georges Dologuélé, candidat lui à l'élection présidentielle. L'ANE ne s'est pas encore clairement exprimé sur ce trafic présumé, mais le doute est déjà semé chez les candidats quant à la crédibilité du scrutin. Tatiana Mosso à Bangui pour VOA Afrique.
En Somalie, nouvelle attaque des islamistes d'Al-Shabaab contre une ville clé dans la région du Bachabel. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Les militants somaliens ont attaqué hier soir et brièvement investi la ville de Koryolé, rapportent des témoins et des responsables locaux. Lourdement armés, ils ont aisément franchi les lignes de défense des forces gouvernementales somaliennes. Un habitant ayant requis l'anonymat a indiqué que les assaillants ont occupé le commissariat de police ainsi que le siège de l'administration locale de Koryolé, localité située à 150 km au sud-ouest de Mogadiscio, la capitale. Un responsable local s'exprimant lui aussi sous anonymat a expliqué au service somali de la Voix de l'Amérique que les soldats qui avaient été poussés hors de la ville par les insurgés ont repris l'initiative. Et bien que le gouvernement parle d'une contre-attaque victorieuse, la situation de Koryolé était encore incertaine dans la nuit. Cette ville stratégique avait été reprise aux militants d'Al-Shabaab en mars de l'année dernière par les troupes africaines et somaliennes.
VOA Afrique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Burkina Faso, c'est aujourd'hui le dernier jour au pouvoir pour les autorités de la transition. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a fait le bilan de son gouvernement. Tout en étant satisfait des résultats, il a aussi émis des regrets. On l'écoute.
Je regrette le fait que nous n'avons pas pu, surtout sur la question de l'emploi, apporter le maximum de réponses. Parce que aujourd'hui, après avoir écouté tous les discours politiques, toutes les théories de démocratie, quand vous rentrez chez vous, c'est ce qui est servi dans le plat, ça qui est important. Donc, la question de l'emploi, je regrette qu'aujourd'hui encore, au Burkina Faso, il y a des jeunes, il y a des femmes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de source de revenus. Ça, c'est véritablement un regret. La transition a pu faire beaucoup. Nous avons notamment financé environ 3 000 ans. Micro-entreprise ou initiative d'entreprise pour permettre l'auto-emploi et permettre en tout cas de créer des emplois. Mais je conviens que ce n'est pas suffisant. Au regard de la taille des besoins, j'avoue que notamment, il reste encore beaucoup à faire.
Le Premier ministre burkinabé Yacouba Isaac Zida, propos recueillis par notre correspondant Ouagadougou Zoumana Ronogo. Au Niger, un nouveau souci pour le mouvement démocratique nigérien MODEN, parti d'opposition dont le président Mahamadou est en prison depuis le 14 novembre. Cette formation politique affirme que plusieurs de ses cadres ont été arrêtés sans aucune explication. Selon le parti, Timothée Donogmaï a joint à Niamey Bakary Seydou, chef du groupe parlementaire du MODEN.
Vous avez dit que Mahamadou est plus toujours le politique. La preuve, vous avez vu. Maintenant, comme ils savent que les dossiers de données en sortie, ils ne vont pas pleurer. Ils sont en train d'imaginer, chercher à faire une connexion avec la fantastique de coup d'État. Ils sont partis à Tilingué de Privé. Il était dans sa cellule pour l'interroger. Quelle est sa relation avec ceux qui ont fait le pouvoir? Oui, mon Dieu. Quelqu'un qui est arrivé, qui est descendu de l'aéroport, qui n'a même pas été chez lui. Et depuis qu'il est arrivé, il n'a même pas de moyens de communication. Comment peut-il être associé à des pochis? Nous, nous sommes des légalistes. Nous l'avons dit dans notre déclaration. Ce n'est pas à 2 mois, nous ne sommes pas. Nous disons plus qu'à 2 mois des élections, allez nous impliquer dans une tentative de coup d'État.
Bakary Seydou, chef du groupe parlementaire du MODEN, joint à Niamey. Au Nigeria, le groupe islamiste Boko Haram a attaqué Jidari Polo, une localité située dans les faubourgs de Maiduguri, grande ville du nord-est du pays. Aucun bilan n'est encore disponible. Cette nouvelle attaque est survenue quelques jours après que le président Muhammadu Buhari eut affirmé que la guerre contre Boko Haram avait techniquement été gagnée par les forces gouvernementales. Et ce, à moins d'une semaine de la date limite du 31 décembre qu'il s'était lui-même fixé pour venir à bout du groupe djihadiste nigérian. En Égypte, un policier va être jugé après avoir battu à mort en novembre un vétérinaire en détention dans la ville d'Ismaïla. Des organisations de défense des droits de l'homme accusent régulièrement la police et les membres des services secrets égyptiens d'abus et de torture sur les détenus. Le 3 décembre, le président Abdel Fattah al-Sissi avait affirmé que tout policier fautif devra rendre des comptes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'actualité hors d'Afrique maintenant en France. La ville d'Ajaccio en Corse a été le théâtre de manifestations extrêmement violentes ce week-end. Plusieurs centaines de personnes se sont rendues dans un quartier populaire de la ville et ont commis des actes de violence islamophobe. Une salle de prière musulmane a été notamment saccagée. Suite à ces événements, le préfet de Corse a décidé d'interdire toute manifestation dans la capitale de la Corse du Sud. Les détails avec notre correspondant à Paris, Christian Mpanzou.
La décision du préfet de Corse, Christophe Mirmand, a pris effet ce dimanche et sera en vigueur jusqu'au 4 janvier. À l'origine des manifestations, l'agression d'un policier et de plusieurs sapeurs-pompiers durant la nuit de Noël, en plein cœur d'un quartier d'Ajaccio. Les insultes racistes et les dégradations de commerces ou de lieux de culte musulmans ont largement été dénoncées par l'Observatoire national contre l'islamophobie, mais aussi par les dirigeants nationalistes. Le président de l'Assemblée corse, Jean-Guy Talamoni, fustige cette dérive xénophobe qu'il juge étrangère à la tradition politique de l'île. Pour calmer les nombreux manifestants, 2 gardes à vue ont été prononcés ce dimanche, mais rien n'indique que les 2 individus interrogés sont directement impliqués dans l'agression des pompiers et du policier. Ces récents événements ternissent encore un peu plus l'image controversée de la Corse. Depuis Paris, Christian Mpanzou pour VOA Afrique.
En Syrie, au moins 14 personnes ont été tuées ce lundi et 132 autres blessées dans des attentats qui ont frappé un quartier pro-régime de Homs dans le centre du pays. Selon un nouveau bilan rapporté par la télévision officielle, une voiture piégée a explosé, suivie par un attentat suicide dans le quartier de Zahra, où vivent des Alaouites, la communauté du président syrien Bachar al-Assad. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, une ONG qui dispose d'un vaste réseau de sources sur le terrain, a confirmé les attentats, estimant que le bilan pourrait grimper à 32 morts. Autre attentat suicide en Afghanistan. Une explosion à la voiture piégée s'est produite ce matin à proximité de l'aéroport de Kaboul. L'attaque visait, selon toute probabilité, des soldats de l'OTAN. C'est ce qu'ont indiqué les autorités afghanes qui n'étaient pas en mesure de fournir un bilan dans l'immédiat. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.